Le journal Loïc Barrière. L'accord maritime entre Israël et le Liban, signé séparément à Jérusalem par le Premier ministre israélien Yair Lapid et à Baabda par le président libanais Michel Aoun, un échange de lettres via les États-Unis et l'ONU a eu lieu ensuite à Naqoura, au Liban Sud. Amnesty International réclame une enquête de la Cour pénale internationale pour l'opération israélienne d'août dernier dans la bande de Gaza. Entretien avec Martine Brismur, l'une des responsables de l'ONG. Plusieurs morts et des dizaines de blessés dans un sanctuaire chiite mercredi en Iran. Une attaque dénoncée par le président Raïsi qui a fait un lien entre le terrorisme et les manifestations qui se poursuivent dans le pays. En Syrie, 4 morts dans une attaque israélienne près de Damas. Enfin, nous reviendrons sur la création d'une délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale. Entretien avec le secrétaire général d'Enfance Bleue, Enfance Maltraitée, Michel Mazlov. Le Liban et Israël ont signé séparément l'accord délimitant leurs frontières maritimes, un accord obtenu après des mois de négociations via les États-Unis. Le texte a été signé séparément par le Premier ministre israélien Yair Lapid à Jérusalem et par le président Michel Aoun à Baabda. Ce tracé permet de répartir entre les deux pays les gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. L'accord sur la frontière maritime a pris ensuite la forme d'un échange de lettres par l'intermédiaire des États-Unis et de l'ONU. Les délégations libanaises et israéliennes se sont rendues à Naqoura, au Liban Sud, mais aucune rencontre directe n'était prévue. Un accord salué ensuite par le président américain Joe Biden. Le chef du Hezbollah a lui annoncé la fin de la mobilisation militaire exceptionnelle face à Israël. Pour Hassan Nasrallah, ce qu'il s'est passé du début à la fin est une grande victoire pour le Liban. En Syrie, 4 combattants pro-iraniens ont été tués lors de frappes israéliennes sur des dépôts d'armes et de munitions. L'attaque a eu lieu près de Damas, c'est ce qu'annonçait l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit du 3e raid de ce type en Syrie en moins d'une semaine. Amnesty International a appelé à une enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre commis par Israël et des combattants du djihad islamique lors de l'escalade dans la bande de Gaza en août dernier. Entretien avec Martine Brismur, coordinatrice Israël-Territoire palestinien au secrétariat national d'Amnesty International France.
Nous avons fait par le passé souvent des enquêtes sur les attaques israélienne à l'encontre de Gaza, de la bande de Gaza. Et donc, il y a eu une offensive préventive, selon les Israéliens, en août 2022. Et donc, nous avons souhaité et trouvé absolument indispensable de mener une enquête. Donc, en fait, nous avons mené une enquête et nous avons sorti un rapport le 25 octobre qui s'intitule « They were just kids », donc ce n'était que des enfants, preuve de crimes de guerre pendant cette attaque. Voilà, et donc nous expliquons pourquoi ces attaques pourraient constituer des crimes de guerre. Nous avons reconstitué à l'aide de photographies, de fragments d'armes, d'images satellites et de dizaines de témoignages les circonstances dans lesquelles ont eu lieu cet homicide commis par les forces israéliennes et une très probablement par des groupes armés palestiniens. Donc cette offensive n'a duré que 3 jours, mais elle a provoqué un nouveau traumatisme et de nouvelles destructions, comme nous en avons déjà authentifié en 2008, en 2012, en 2014. Et toutes ces violations se déroulent dans le contexte du blocus illégal de Gaza par Israël, qui est un instrument crucial de son régime d'apartheid que nous avons déterminé et sur lequel nous avons publié un rapport en février 2022. Donc la population palestinienne à Gaza se trouve dans une situation terrible, cauchemardesque depuis 15 ans, avec une crise humanitaire ponctuée d'attaques illégales récurrentes. Donc nous demandons à la CPI d'enquêter sur ces possibles crimes de guerre, mais nous pensons aussi que la, et ça nous l'avons déjà demandé, que la CPI ajoute à son enquête qu'elle mène en ce moment sur les territoires palestiniens occupés depuis 2014, qu'elle inclut le crime d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité à l'égard de la du peuple palestinien.
Israël dit avoir visé le djihad islamique, mais selon Amnesty, 31 civils figurent parmi les 49 morts recensés en août dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler des circonstances dans lesquelles ces civils ont été tués ? Il y a notamment le cas d'enfants qui se trouvaient dans un cimetière.
Absolument. Donc nous avons différents cas de une jeune femme, Dounia Alamour de 22 ans, mais nous avons aussi ses enfants, enfin 5 enfants qui ont été qui jouaient dans un cimetière près du camp de réfugiés de Jabalia et qui ont été tués le 7 août 2022. Ceci se situe dans le nord de la bande de Gaza. C'est des enfants presque tous d'une même famille. Donc en fait, ils jouaient dans ce cimetière parce que le camp est surpeuplé et que en plus ils ont besoin d'espace, il fait très chaud. Donc les conditions de vie de ces enfants et des réfugiés à Gaza expliquent que les enfants évidemment jouent dans des lieux qui peuvent sembler incroyables. D'ailleurs, l'armée israélienne a dans un premier temps imputé cette attaque au djihad islamique palestinien. Mais en fait, tout a été remis en question dès le 16 août par des sources militaires anonymes dans le Haaretz. Voilà. Et en plus, le spécialiste en armement d'Amnesty International estime que les pièces métalliques usinées avec précision qui ont été photographiées par notre chercheur de terrain qui a enquêté correspondent à des fragments de missiles guidés israéliens. Amnesty International n'a trouvé aucun élément qui aurait pu prouver que des groupes armés avaient des activités militaires près du cimetière au moment de l'attaque. Il y a des images satellites aussi qui ont été prises 10 jours plus tôt qui ne montrent apparemment aucune cible militaire dans ce secteur. Donc l'absence de cible militaire apparente incite à penser que cette attaque pourrait avoir délibérément visé des personnes civiles ou bien des biens de caractère civil, et donc pourrait constituer un crime de guerre.
Lors de cette opération militaire, il y a eu beaucoup d'émotions, c'était au mois d'août, mais depuis le silence est revenu. Il est important que la justice passe après ce que vous considérez comme de possibles crimes de guerre.
Tout à fait. Les personnes sur place, les témoins, les familles qui ont été décimées par ces homicides, attendent la justice, et nous pensons qu'il faut absolument qu'il y ait des compensations et que aussi bien les Israéliens que les Palestiniens impliqués rendent des comptes et dédommagent toutes ces familles, bien sûr.
Martine Brismur, coordinatrice Israël territoire palestinien au secrétariat national d'Amnesty International France. En Iran, un attentat a fait 15 morts et des dizaines de blessés à Shiraz. L'attaque a visé un lieu de culte chiite. Elle a été conduite par un individu armé. Une femme et 2 enfants figurent parmi les victimes. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Le président iranien, Ebrahim Raisi, a déclaré que l'intention de l'ennemi est de perturber les progrès du pays et les émeutes qui ont lieu actuellement en Iran ouvrent, selon lui, la voie à des actes terroristes. Hier, les forces de sécurité ont ouvert le feu et tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants rassemblés à Saguez, la ville où est enterrée Mahsa Amini. Ces incidents ont eu lieu le jour d'une cérémonie d'hommage marquant la fin du deuil de 40 jours. Au Mali, des civils massacrés par des djihadistes dans plusieurs villages. Human Rights Watch évoque des centaines de morts. L'ONG appelle le gouvernement malien à protéger davantage les villageois. Ces attaques ont eu lieu depuis le mois de mars dans les régions de Menaka et de Gao. En France, un campement de migrants évacués dans le nord de Paris. Un millier de personnes ont été concernées par cette évacuation. La plupart viennent d'Afghanistan. Des associations affirment que plusieurs centaines de ces migrants n'ont pas eu de solution de relogement. L'Assemblée nationale a récemment créé une délégation aux droits des enfants. Elle est chargée de nourrir le travail législatif sur des sujets qui vont de l'aide sociale à l'enfance aux violences intrafamiliales comme l'inceste. Un nouvel organe composé de 36 députés répartis entre les groupes de manière proportionnelle à leur poids dans l'hémicycle. Une initiative que salue le secrétaire général d'Enfance Bleue, Enfance Maltraitée, Michel Martzloff.
Nous l'avons accueilli évidemment avec soulagement, puisque ça fait quand même des années que les associations demandent la création de ce type de délégation. Il faut savoir que c'est vraiment pour les Français, la protection de l'enfance est vraiment une cause qui est plébiscitée comme étant la plus importante des causes sur lesquelles devrait se travailler le gouvernement. Il y a un autre point également qui justifie tout à fait un travail particulier dans le domaine de la protection de l'enfance, c'est que le nombre de victimes est beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer comme ça, sans avoir les données. Dans un sondage qu'on a fait avec la société Harris Interactive, on a constaté que 22% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances lourdes et répétées durant leur enfance. 22%, c'est très important, et dont 16% déclarent des maltraitances de nature sexuelle. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est montre qu'il est... Il y a eu des choses de fait dans le passé qui ont fait progresser la protection de l'enfance, mais il reste encore un grand travail pour vraiment avoir une politique qui mette l'enfant comme priorité numéro un pour un État qui veut protéger et aider ces jeunes à grandir.
Oui, vous évoquez une personne sur cinq victime de maltraitance durant enfance, maltraitance lourde. Il est important de libérer la parole.
Alors ça, c'est effectivement un point essentiel. Le point auquel on se heurte, c'est d'une part des difficultés pour les professionnels de faire des signalements. Et nous avons, au cours de la dernière campagne pour les présidentielles, envoyer un certain nombre de propositions à tous les candidats, et effectivement dans une de ces 10 propositions consistait à garantir l'immunité disciplinaire des professionnels de santé pour qu'ils puissent faire des signalements sans risquer d'être poursuivis. Il y a également un autre point important, c'est la formation des professionnels de l'enfance. Je crois que la récente affaire de Loyel-Soulance, vous savez, cette affaire où 10 enfants vivaient dans des conditions absolument inacceptables, malgré des signalements. Et pourquoi, malgré ces signalements, pourquoi, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné sur une protection efficace de ces enfants? On va se porter partie civile dans cette affaire uniquement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se reproduise pas.
La mission de cette délégation sera notamment de nourrir le travail législatif. Quel type de loi, de réforme préconisez-vous aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'Enfant Bleu Enfance Maltraitée?
Je reviens sur la dizaine de propositions qu'on a faites. On en a sélectionné 10 parmi une vingtaine qui nous semblaient donc les plus importantes. Comme je vous disais, c'est notamment en priorité concentrer ses efforts sur la formation des professionnels de l'enfance. On constate souvent qu'il y a des méconnaissances sur les procédures, sur les possibilités qui sont faites pour faire des signalements. Il y a également un point important, c'est que les gens, les voisins, l'environnement d'enfants qui vivent des situations de maltraitance ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour signaler ce genre de situation. Ils ne savent pas, ou alors ils ne veulent pas, considérant que ce qui se passe chez les autres ne les regarde pas. Et ça, c'est un point vraiment très important, parce qu'on constate souvent, dans des affaires où nous sommes, par exemple, partie civile, que l'environnement, que les proches étaient savaient ou soupçonnaient, mais n'ont rien fait pour... par ignorance ou par volonté de ne pas créer de problèmes au niveau de ces familles. Évidemment, quand on fait comme ça, on n'aide pas du tout les enfants. On souhaite également la création d'un fichier national des signalements et des informations préoccupantes, de manière à pouvoir savoir à quel endroit où se trouve une famille. Quel est l'historique de cette famille en matière de suivi. Je vous disais également l'immunité disciplinaire pour les professionnels de santé qui réalisent des signalements aux autorités compétentes. Ça semble important, ça peut être un frein au signalement. Et il y a un point également qui me semble très important, c'est nous avons développé des séances de prévention auprès des enfants dans les établissements scolaires. Pour cela, d'ailleurs, nous avons obtenu un agrément national. On peut se rendre dans n'importe quel établissement qui nous le demande pour monter des séances de prévention. Et ça nous semble extrêmement efficace, parce que à chaque fois que nous allons souvent lorsque nous allons faire ces préventions, nous avons des enfants qui nous font des signalements, ou qui déclarent des situations qu'ils connaissent ou qui les touche directement. Et on se demande d'ailleurs si à Noyel, si ces enfants avaient eu ce genre de prévention, ils n'auraient pas été amenés à parler en confiance.
Le secrétaire général d'Enfance Bleue, Enfance Maltraitée, Michel Martzloff, il répondait à François-Xavier de Calonne. Le gouvernement a donné le détail des dispositifs pour aider les entreprises et les collectivités locales face à la hausse des prix de l'électricité. Selon Bruno Le Maire, ces aides s'élèvent au total à près de 12 milliards d'euros. L'État va par ailleurs débloquer 275 millions d'euros pour aider les universités confrontées elles aussi à l'inflation des prix de l'énergie. Enfin, et si on en parlait, à 19h et 23h, le sujet de l'émission « Conflit en Ukraine, jusqu'où ira le régime de Vladimir Poutine ?» Alexis Bachelet recevra Maya Kadra, journaliste et enseignante, et Jean-François Colosimo, historien, théologien et directeur général des éditions du CERF. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.